Je suis une habitante de Baba Meur. On a quitté le quartier quand les terroristes sont rentrés. Et quand il a été libéré, on est revenu.
Les gens qui étaient à Palmyre sont presque tous partis. Les gens s'enfuient car ils égorgent tout le monde. Tu ne peux pas vivre avec Daesh. C'est impossible.
Si seulement la situation pouvait se calmer et les gens se réconcilier et revenir à une vie normale, on vivait en sécurité. Nous n'avons plus de tranquillité maintenant.
Chaque jour ou presque, nous égrenons le nombre de morts que fait le conflit syrien depuis 5 ans maintenant. Les civils sont pris en étau entre les atrocités commises par Daesh et les bombardements meurtriers du régime de Bachar al-Assad. D'un côté donc les djihadistes sanguinaires qui depuis 2013 ont gangréné la rébellion et de l'autre le jusqu'au boutisme d'un président syrien. On en est certain depuis la publication notamment des photos de César, les forces de l'ordre syriennes ont arrêté, torturé, massacré méthodiquement et délibérément des dizaines de milliers de personnes. Les Syriens n'ont donc d'autre choix que de mourir. Le conflit a fait plus de 270 000 morts, certains affirment que c'est même le double. Mourir donc ou fuir. La moitié de la population syrienne a fui, 4 millions ont réussi à s'exiler, plus de 7 millions de personnes ont migré à l'intérieur même du pays pour se réfugier dans des zones moins dangereuses. Mourir, fuir ou survivre dans ces poches où un semblant de vie normale justement se déroule. Depuis l'intervention des Russes fin septembre, la donne a changé. Le président Assad, qui ne se sent plus acculé, accepte désormais de discuter avec ce qu'il reste d'opposition modérée. Le cessez-le-feu conclu tout récemment a apporté un peu de répit dans certaines zones. C'est là que nous emmène ce soir le magazine de la rédaction. 5 ans de guerre en Syrie, c'est un reportage signé Valérie Crova. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous sommes ce soir avec Fabrice Ballange. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'université Lyon 2 et chercheur invité en ce moment au Washington Institute. C'est un think tank qui est basé aux États-Unis. Je vais citer deux de vos ouvrages, l'Atlas du Proche-Orient arabe, publié aux presses universitaires Paris-Sorbonne, et puis, plus en lien avec notre sujet encore, la région alaouite et le pouvoir syrien que vous avez publié chez Kartala. Et puis nous sommes avec Valérie Crova. Bonsoir Valérie.
Bonsoir. Bonsoir, Tara.
Vous rentrez de Syrie, c'est un pays que vous connaissez bien.
Oui, effectivement, ça fait 5 ans que je vais régulièrement en Syrie avec un visa des autorités. 5 ans que je vois ce pays se désintégrer. Alors, cette fois, j'ai voulu retourner à Dera, qui est à 120 km au sud de Damas. C'est à Dera que tout a commencé en mars 2011, quand des enfants ont été arrêtés pour avoir écrit des slogans sur des murs demandant le départ de Bachar el-Assad. Ils étaient une quinzaine. Ces enfants ont été arrêtés, certains torturés par les services de sécurité, ce qui avait créé une vive émotion parmi les habitants de la ville qui ont commencé à manifester leur colère dans les rues. Aujourd'hui, Dera est en partie, disons, 60% sous contrôle de l'armée syrienne. Certains quartiers sont encore aux mains des rebelles, ce que les autorités syriennes appellent les terroristes. Vous allez entendre souvent ce mot dans ce reportage.
On écoute donc votre reportage qui commence à Dera.
Alors ici, on est au centre de Dara, Al-Mahatta. Vous pouvez voir le gouvernement devant vous. Juste derrière vous, il y a la centrale de téléphone. Et puis, il y a toutes les sociétés de l'État qui se trouvent ici. Et ça, le monsieur est un ingénieur ici, qui est dans le coin, si vous voulez aussi lui parler.
Bien sûr. Vous êtes habitant de Dera ?
Depuis que je suis né, j'habite à Dera, dans le quartier Al-Menchiyeh.
Comment est la situation ?
Maintenant, les situations elles sont bien, surtout avec l'avance de l'armée. Et là, on est un peu loin des lancements, des roquettes et tout ça que les rebelles nous lancent souvent. Là, on est un petit peu loin. Alors, la présence de l'armée nous a un peu plus rassurés ici.
Mais il y a encore des quartiers qui sont sous contrôle des rebelles de l'autre camp.
Non.
Nous Moi, je suis ingénieur électrique. On avait souvent des problèmes quand on travaille sur la ligne de front. Ils nous tiraient dessus. Mais ici, dans la ville, on n'a pas beaucoup de problèmes. Surtout que, comme vous voyez, la vie est presque normale ici. Les gens ils travaillent et tout ça. Mais sur la ligne de front, on a toujours eu des problèmes quand on veut faire une réparation par les rebelles qui nous tirent dessus.
Pour nous, en Europe, on considère que Deraa, c'est le berceau de la révolution, c'est là que tout a commencé. Est-ce que vous, en tant qu'habitant de Deraa, vous pensez la même chose ?
Quand il y a eu des événements, il n'était pas ici, lui. Les militaires qui arrivent, c'est pour ça.
D'accord. Il faut qu'ils nous laissent un peu de marge, les militaires, parce qu'autrement, les gens, ils ne nous parleront jamais. Hein, il faut leur dire.
La vue des uniformes ne rend pas facile le dialogue avec les habitants de Deraa. D'autant que nous sommes accompagnés par un membre des services de renseignement qui note scrupuleusement toutes les réponses sur un carnet. Les vieux réflexes sécuritaires ont la vie dure. Nous arrivons à nous éloigner pour rentrer dans une papeterie.
Monsieur, quelle est la situation dans la ville aujourd'hui ? C'est calme ? Ou il y a encore des quartiers où on ne peut pas aller ?
La ville, bon, ça va. Mais quand tu vas à l'extérieur de la ville, c'est non, tu ne peux pas, c'est plus dur.
Pourquoi c'est plus dur ? Qu'est-ce qui est plus dur ?
Parce qu'il y a des combats là-bas, c'est normal, il y a des terroristes. Mais ici, je peux t'en parler que les choses se sont beaucoup améliorées. Il y a le gaz, on a l'électricité. Tous les besoins de vivre, on les a. Je remercie le gouvernement parce qu'ils ont fait de grands efforts pour qu'on puisse vivre d'une façon normale.
Vous vous souvenez de ce qui s'est passé, vous, il y a 5 ans en arrière ? En mars 2011.
Bien sûr, nous, moi j'étais ici, je vivais ici, mais on ne peut pas tout dire.
En sortant, nous croisons un homme dont la parole est plus libre que les autres habitants.
Bonjour monsieur. Alan. Est-ce que vous avez des souvenirs de ce qui s'est passé dans votre ville il y a 5 ans ?
Oui. Ce qui s'est passé, c'est que des enfants ont écrit des slogans sur les murs, mais c'était plutôt innocent. Ils ont écrit des choses sans objectif particulier, ils n'étaient pas politisés. Les services de sécurité les ont pris et les ont tabassés, bien qu'il s'agissait d'enfants. Ils leur ont fait assumer une responsabilité qui n'était pas la leur. Ils ont été libérés, mais après avoir été un peu torturés.
En Europe et en France en particulier, on considère que tout est parti de votre ville, de Deraa, que tout ce qui se passe depuis 5 ans est parti d'ici, de Deraa.
Il y a également d'autres régions qui ont rejoint le mouvement de libération. Il y a eu de la provocation, des gens qui ont exacerbé la situation. Les enfants ici ont été touchés par ce qui se passait ailleurs, en Tunisie et dans d'autres pays. Il y a eu ces slogans. Les gens leur disaient d'écrire par exemple « Il faut faire chuter le régime ». Mais ce n'était que des enfants qui n'avaient pas d'objectif particulier.
Au vu de ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu descendre dans la rue, manifester et... Il y a 5 ans.
Si seulement la situation pouvait se calmer et les gens se réconcilier et revenir à une vie normale, on vivait en sécurité. Aujourd'hui, l'eau est rationnée, l'électricité aussi. Nous avons le courant 2 heures sur 4. Il n'y a rien de mieux que la vie normale, où les gens vivent paisiblement et sereinement. Nous n'avons plus de tranquillité maintenant. Nous avons l'impression d'être dans une grande prison dont on ne peut pas sortir. Et si l'on s'aventurait à sortir, nous risquons les arrestations en masse et sans raison.
Nous ne pourrons pas aller jusqu'à la mosquée Al-Omari de Dera, qui fut l'un des hauts lieux de la contestation, ni près des bâtiments gouvernementaux comme le siège du Parti Basse, qui avait été incendié par les manifestants. Nous partons pour Al-Taman, l'une des localités reprises récemment par l'armée syrienne, tout près de Dera.
Là, c'est l'entrée de la ville Ataman. Là, on va y aller. On l'a élevée, elle est complètement libérée. Et on va aller jusqu'à un point où on a levé aussi le drapeau arabe syrien.
Et depuis quand la ville d'Ataman a été reprise?
Le 5 février 2016, elle a été libérée. On l'a repris en 48 heures. Et on va, nous, dans le milieu du centre de la ville, et vous verrez là-bas. Ici, c'est le centre de la ville.
On a vu quand même beaucoup de destruction avant de venir.
Depuis 2 ans et demi, il y a eu beaucoup de destruction ici. Parce qu'on était ici il y a 2 ans et demi et il y a eu des pressions, beaucoup de pressions sur nous. On était obligés de reculer. La moitié du village a été détruit à cause des roquettes qui lançaient sur nous et tout ça.
Le général qui supervise les opérations militaires dans la région de Dera a installé son quartier général dans l'ancien stade de football de la ville, où trône au-dessus des tribunes défraîchies un vieux portrait d'Hafez el-Assad et de son fils Bachar.
Et on a pu reprendre Ataman et aussi un peu à côté de Ataman, vers Tafas aussi, 5 km on a pu prendre aussi.
Ce sont des victoires importantes. En quoi c'est important d'avoir repris Al-Taman ?
Ataman, c'est tout près d'ici. Et c'est très important pour des raisons tactiques. C'est le point essentiel des opérations qui se gèrent dans Dara. Et ce n'était pas loin de nous. Et aussi parce que c'est sur la route principale de Damas. Et aussi, on peut d'ici pousser, s'il n'y a pas eu des réconciliations vers Ta' et Da'il, on peut aussi pousser vers eux. Parce qu'il reste que ces deux villes qui sont proches du côté de la route principale entre Damas et Dara.
Dera, c'est un front dont on parle peut-être moins que le front d'Alep, mais c'est un front qui est aussi important stratégiquement pour l'armée syrienne.
Le point stratégique pour Dara, c'est qu'elle est entourée un peu de 3 d'autres villages, comme Souaida, la banlieue de Damas, Al-Quneitra, la Jordanie et Palestine aussi. Ils sont tout près.
Quels sont vos objectifs aujourd'hui?
Le but essentiel, c'est la stratégie de l'armée arabe syrienne, c'est d'y aller où il y a des terroristes, qu'ils soient dans l'Est ou dans l'Ouest. On va y aller toujours là où ils sont pour libérer les villes.
Nous quittons Dera pour Homs. La troisième ville de Syrie fut longtemps baptisée la capitale de la révolution. Elle est aujourd'hui totalement aux mains du régime. Toujours accompagnée par des militaires, nous arrivons à Bab Hamer, ce quartier emblématique de ce que fut le début de la révolution syrienne. Avant la guerre, 28 000 personnes habitaient à Bab Hamer. Aujourd'hui, 700 familles, nous dit-on, sont revenues s'installer. Rien n'a changé depuis que les combattants de l'armée syrienne libre ont quitté Bab Hamer en mars 2012. Tout est resté en l'état. Les devantures des magasins qui ont été pillés sont par terre, les immeubles éventrés, les arbres calcinés. Ici, au plus fort des combats avec l'armée syrienne, il tombait jusqu'à 4 roquettes par minute. Un déluge de feu qui a eu raison des rebelles. Dans une ruelle, des femmes discutent sur un banc.
Je suis une habitante de Bab Amer. On a quitté le quartier quand les terroristes sont rentrés. Et quand il a été libéré, on est revenu.
Donc ça fait 3 ans ?
Oui, exactement 3 ans.
Il n'y a pas eu beaucoup de reconstruction, hein. Les immeubles sont encore très détruits.
Une délégation est venue il y a peu de temps pour prendre les noms des habitants pour qu'ils soient remboursés des dégâts. Et il y a aussi une décision du gouvernement de reconstruire Bab Amer.
Qu'est-ce qu'ils sont devenus tous les gens qui habitaient Bab Amer, qui ne sont pas revenus? Ils sont où ces gens?
Il y a des gens qui soutenaient les rebelles. Ces gens-là, bien sûr, ne peuvent pas revenir. Il y a des personnes qui vivent dans d'autres endroits contrôlés par l'État.
C'est la majorité des habitants de Bab Amer qui soutenaient les rebelles?
La majorité, oui. Des gens qui ne sont plus ici. D'autres gens sont partis de Bab Amer et ne sont plus revenus car ils n'avaient rien à voir avec cette crise. Vous savez, Bab Amer a été bombardé 2 fois.
Il n'y a pas eu d'erreurs qui ont été commises de la part de l'État syrien?
Non. Nous, on ne s'attendait pas du tout à ça. Avant, on ne présentait jamais nos cartes d'identité. Tout était bon marché, la nourriture, les vêtements. Ce sont eux, les terroristes, qui nous ont causé tous ces problèmes.
Mais les destructions à Bab Amer, elles sont quand même dues en grande partie. Il y a eu des combats importants, mais il y a aussi des bombardements qui ont été effectués par l'armée syrienne.
Ce sont eux qui attaquaient. Ils ont formé des milices. Ils sont entrés ici avec les armes. Avant, il n'y avait pas une seule maison qui était détruite. Ce sont les terroristes qui sont derrière ça.
Est-ce qu'on protège les gens en faisant des bombardements?
L'armée nous a prévenus à l'avance. Ils n'ont pas commencé à bombarder avant de s'assurer que tout le monde était sorti. Nous sommes tous sortis après avoir pris nos affaires. Les autres ne nous laissaient pas partir. Ils ont tué beaucoup de gens. L'armée, elle, a donné un ultimatum. Les militaires nous ont alertés et nous ont demandé de quitter nos maisons. Et tant pis pour ceux qui ont refusé de partir. Seule une minorité est restée, principalement les parents des miliciens armés.
Il n'y avait pas un moyen, avant de bombarder, de dialoguer, de négocier, vous pensez, entre les autorités syriennes et les rebelles?
Bien sûr. Dès le début et encore maintenant, on entend parler de réconciliation. Il y a beaucoup de gens qui ont rendu leurs armes à l'armée et qui ont aujourd'hui une vie normale. Mais d'autres ont continué dans cette voie.
À quelques rues, une école élémentaire de Bab Amer a rouvert. Dans la salle des professeurs, des drapeaux syriens tapissent les murs. Au milieu, un portrait de Bachar el-Assad.
Vous êtes le directeur de l'école ?
Abdelrahman Houlani, le directeur de l'école ici.
Depuis combien de temps vous avez rouvert l'école ici à Bab Amer ?
Après que les rebelles sont sortis directement, l'État elle a donné les ordres au ministère de l'Éducation pour que toutes les écoles se rouvrent les portes aux enfants. Bien sûr, vous savez que l'enseignement ici est gratuit aussi.
Il y a combien d'enfants de scolarisés?
218 garçons, 188 filles.
Bonjour madame. Quel est votre nom?
Enseignante Oumaïma Kanaan.
Comment vous expliquez aux enfants ce qui s'est passé depuis 5 ans dans votre classe?
On leur dit la vérité, c'est-à-dire que des gens de l'extérieur se sont infiltrés pour détruire ce pays. L'armée nous a protégés et le président Bachar aussi.
Est-ce que vous leur expliquez qu'au tout départ, c'était des gens qui voulaient un peu plus de démocratie ou pas du tout?
Non. De quelle liberté vous parlez? On vivait en liberté. Mais maintenant, c'est plus le cas. Mon mari a été tué parce qu'il faisait partie d'une délégation de réconciliation. Ce sont les rebelles qui l'ont tué. Vous parlez de liberté ? C'est pas ça la liberté. Maintenant, mes enfants vivent sans père. C'est à cause de ces terroristes. Et elle est où la liberté ?
Quand vous voyez ce qui s'est passé depuis 5 ans, c'est quoi votre sentiment personnel ?
Depuis 5 ans, on a perdu le fait de vivre en sécurité. Avant, c'était mieux. J'espère qu'on pourra revivre comme avant.
Une équipe du Croissant-Rouge syrien vient deux fois par semaine dans cette école pour des activités extrascolaires à destination des enfants, mais aussi de leurs mamans.
Ils viennent nous aider, nous donner des cours. Moi, je prends des cours d'infirmerie au cas où un de mes 7 enfants aurait besoin d'une piqûre ou d'un traitement rapide. Vu les circonstances, ça peut être utile.
Et vous êtes toutes de Babamer ?
Non, on est de Palmyre.
Palmyre ? Chou.
On a quitté Palmyre, on est venu à Homs et là on vit à Babamer.
Vous avez des nouvelles de Palmyre, de ce qui se passe à Palmyre ?
Il y a Daesh là-bas, mais on entend dire que l'armée syrienne va libérer rapidement Palmyre.
Vous avez encore de la famille là-bas à Palmyre ?
Les gens qui étaient à Palmyre sont presque tous partis. Mon mari, ça fait pas longtemps qu'il s'est enfui par des voies illégales, car les autres ne les laissent pas partir. Les gens s'enfuient car ils égorgent tout le monde. Tu ne peux pas vivre avec Daesh. C'est impossible. On leur a laissé la ville.
Et vous êtes arrivé à Homs quand ?
Ça fait plus de 8 mois.
Et comment vous êtes sorti de Palmyre ? Comment vous avez quitté Palmyre ?
Quand ils sont entrés dans la ville, on est restés dans nos maisons. Et quand on a eu l'occasion de s'enfuir, on est parti.
On vous demandait de rester chez vous ?
On nous obligeait à mettre le voile et à nous habiller tout en noir. C'est essentiel pour eux. Depuis que l'armée a quitté Palmyre, les choses sont devenues horribles avec Daesh. Ils ont fait exploser la civilisation de Palmyre. Ils égorgent les gens, c'est horrible, vraiment horrible.
Direction le centre de Homs, Ralidiyeh fut l'un des hauts lieux de la rébellion. Des mois durant, l'artillerie syrienne a pilonné à l'arme lourde ce quartier qui jouxte la vieille ville de Homs jusqu'à ce que l'armée loyaliste en reprenne le contrôle en juillet 2013.
Je m'appelle Hayat Awad. Je travaille au bureau d'information au gouvernorat de Homs.
Il y a 3 ans, ici, on ne pouvait absolument pas se promener comme on fait aujourd'hui.
Bien sûr, il y avait des combats. Ces magasins que vous voyez ici étaient bourrés de milices armées, ainsi que les bâtiments que l'on voit en face de nous. 2 ans et demi où les habitants de Homs ont beaucoup enduré de la présence des milices. Ici, il y avait des cafés, il y avait plein de gens. Vous voyez là-bas, avant la crise, on faisait des jus d'orange. Le propriétaire du magasin est revenu à la même place.
Y aller, on peut aller le voir.
Bien sûr, il a eu beaucoup de destruction. Il va falloir beaucoup d'argent pour reconstruire tout ça.
Vous pensez que ça va être possible de reconstruire Homs, qui a été détruite à 60% en fait ?
Ça sera dur, ça va prendre du temps. Par exemple, à Babamer, la décision a été prise de reconstruire des grands immeubles de 12 étages. Mais ici, vous êtes dans la vieille ville. Ils veulent préserver le côté ancien de cet endroit. Ce qui peut être reconstruit, ils le reconstruiront.
Avec quel argent ils vont le faire ?
Il va falloir beaucoup d'argent. Mais regardez ce monsieur, il a eu la volonté de rouvrir son magasin. Bien sûr, on a besoin que l'État travaille avec d'autres pays qui ont des sociétés de reconstruction qui vont nous aider. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer.
Quel pays, à votre avis ?
Sûrement les pays qui nous ont aidés dans cette guerre, comme la Russie, la Chine, l'Iran et d'autres encore. Bien sûr, ce ne sera pas gratuit. Mais je peux vous dire que la main-d'œuvre sera syrienne, parce que c'est la moins chère.
Il n'y aura pas la France alors ?
Non, pourquoi pas? Il faut faire la séparation entre l'économie et la guerre. Je pense que les Français ont des entreprises indépendantes de leur gouvernement. S'ils offrent de bons contrats, pourquoi pas?
C'est ce monsieur qui a le magasin? Bonjour monsieur. Alors vous avez rouvert votre boutique ?
On a rouvert il y a 5 mois pour dire aux gens qu'ils pouvaient revenir travailler ici. Parfois on ne travaille pas, parfois on vend un peu pour 1000, 2000, 3000 livres syriennes. Mais c'est pour encourager les gens.
C'est un petit peu triste quand même hein, quand on voit toutes ces destructions, ces immeubles détruits autour de vous, non ?
Bien sûr, c'est triste. Et encore, c'est mieux maintenant. Les Nations Unies ont passé un contrat avec l'État pour nettoyer et transporter les débris dans un autre endroit.
Bientôt, on va célébrer les 5 ans du début du soulèvement. Comment vous voyez-vous les choses ? Quel est votre sentiment à vous, en tant qu'habitant de Homs ?
Chaque jour, au début des événements, on entendait tirer une balle. On fermait, on courait et on restait chez nous, jusqu'à ce qu'on n'ouvre plus le magasin. Car ici, il y avait des terroristes. Et quand l'armée syrienne a libéré cet endroit, elle a dit aux gens, vous pouvez retourner et rouvrir. Et moi, je suis revenu. J'ai fermé en 2011. Je me suis enfui car il y avait des snipers qui tiraient. Je suis allé chez moi.
Ici, dans la vieille ville, on sait que l'armée syrienne, elle a quand même beaucoup bombardé. C'est pas simplement les rebelles qui ont fait tous ces dégâts.
Vous savez, on ne pouvait pas rentrer ici, c'était très dangereux. On ne savait pas ce qui se passait. C'était des combats de tous les côtés, jusqu'à ce que l'armée syrienne arrive à libérer cet endroit. Ils nous ont dit ensuite qu'on pouvait revenir. Après, ce qui s'est passé exactement, j'étais loin, je n'ai pas vu. Mais c'était de vraies batailles de rue.
Des batailles de rue avec des snipers qui tiraient aussi sur les rebelles et ceux qui les soutenaient. À Homs, la guerre a été terrible des deux côtés. Damas, le symbole du pouvoir syrien. La capitale a été relativement épargnée par les affrontements, contrairement aux localités aux alentours qui se sont soulevées, comme la ville de Douma, que l'armée syrienne assiège, ou le quartier de Jobar, derrière la place des Abbassides. Pour autant, les habitants de Damas ressentent eux aussi les effets de la guerre, surtout sur le plan économique. Pour nous en rendre compte, nous allons dans une rue commerçante du quartier de Mazé.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis de ce qui est augmenté dans la vie de tous les jours ?
La viande, les légumes, l'huile, le beurre, tout a augmenté. Avant, on achetait l'huile par bidon de 20 litres. Maintenant, on va dans un supermarché et on demande un demi-litre d'huile. On ne peut plus payer comme avant.
Un litre d'huile, ça coûte combien aujourd'hui ?
1100 livres syriennes.
Et avant-guerre, c'était combien ?
Ça dépassait pas les 160 livres avant la guerre. Vous voyez la différence ? Que Dieu aide les familles qui ont des enfants. Un jour, j'ai vu un enfant qui a demandé une pomme à un vendeur dans un supermarché. Le vendeur voulait le chasser. Je lui ai dit, c'est un enfant, donne-lui. Il a fini par lui donner. L'enfant est parti. Il a dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé une pomme.
Qu'est-ce que vous êtes venu acheter là aujourd'hui ?
Je suis venu acheter un pull. C'est devenu très cher. Un pull coûte entre 5 000 et 6 000 livres. Avant, ça coûtait 1000 livres. Donc, je suis allée dans une boutique où l'on vend des habits déjà portés.
Combien ça coûte d'acheter de la viande aujourd'hui?
Ce qui a changé, c'est le prix. C'est inacceptable. Avant, on mangeait de la viande 4 fois par semaine. Maintenant, la quantité de viande qu'on achetait pour un seul repas nous fait 4 repas. Depuis le début de la crise en 2011, si tu fais le calcul, le kilo de viande est passé de 500 à 5000 livres, c'est-à-dire qu'il a été multiplié par 10. Les salaires ont augmenté aussi, mais ils n'ont pas été multipliés par 10. Tout à l'heure, il y a des gens qui sont passés et qui ont demandé le prix du kilo. Ils sont repartis, les pauvres. Ils ne pouvaient pas en acheter.
En 5 ans, la guerre en Syrie a fait 270 000 morts, des millions de déplacés et de réfugiés qui ont fui les combats. Une guerre qui a aussi un coût économique avec des pertes qui s'élèveraient à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Impossible de les chiffrer précisément, mais elles sont colossales. Nous rencontrons Hassan Al-Nouri dans son bureau. Ce businessman de 56 ans qui se dit indépendant a été candidat à l'élection présidentielle en 2014. Il se présentait contre Bachar el-Assad. Il est arrivé deuxième. Aujourd'hui, Hassan Al-Nouri est ministre du Développement administratif. Depuis 5 ans, depuis le début des événements qui frappent votre pays, l'économie syrienne a beaucoup souffert. On dit qu'elle a fait un bond en arrière de 30 ans.
We cannot say that. The economy is in good shape.
On ne peut pas dire que l'économie est en bonne forme, mais on ne peut pas dire qu'on est revenu en arrière, comme il y a 30 ans. Pourtant, on est l'un des premiers producteurs de blé. On produisait 4,5 millions de tonnes par an. Maintenant, on en produit beaucoup moins. La production de pétrole est pratiquement nulle. Ça crée une pression sur nous économiquement, car nous devons acheter de l'essence de l'étranger. On était dans une bonne position stratégique pour laisser passer beaucoup de gros camions en transit sur notre territoire, et on en tirait de bons revenus. Nos frontières étaient bonnes, et soudain la crise a arrêté tout cela. Mais pour combien de temps ? Nous souffrons temporairement. Je veux dire que ça ne durera pas longtemps, car on commence à sortir de la crise.
Les finances publiques sont très affectées par la guerre.
Le système financier actuellement n'est pas en bonne santé, bien sûr, car nous avons perdu de gros revenus dans notre économie. Mais ça va s'améliorer. On reçoit de l'aide de nos alliés. De l'Iran, par exemple, nous recevons des soutiens de différents pays. Et ce soutien n'est pas gratuit. Ils savent qu'ils partagent la crise avec nous. Et nous avons besoin de rester unis comme des alliés. Vous verrez que la Chine jouera un rôle important en Syrie. La Russie est toujours un partenaire important de notre économie, et maintenant aussi militairement. Laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas avoir un système financier libre et sain si vous n'arrêtez pas le terrorisme. Maintenant, je suis très heureux qu'il y ait un cessez-le-feu avec certains groupes de l'opposition. Mais nous n'accepterons pas un cessez-le-feu avec les terroristes. Car nous ne pouvons pas avoir un bon système financier et économique tant que les groupes terroristes sont sur nos terres. Et laissez-moi vous dire que l'Arabie Saoudite et la Turquie regretteront leur soutien à ces groupes terroristes.
Vous parlez déjà de reconstruction. Comment reconstruire? Comment vous imaginez reconstruire votre pays?
Ça va être une grosse opération. Tous nos alliés vont nous aider. Et à mon avis, les pays qui sont accusés d'avoir détruit notre pays devront payer. Nous devrons leur demander jusqu'au dernier centime de ce qu'ils ont détruit. Je ne peux pas comprendre que l'Arabie saoudite soutienne toute la guerre parce qu'ils veulent la chute d'Assad. Assad ne perdra pas sa position, à moins que les citoyens syriens n'en décident. Ce sont nos droits. Nous sommes les seuls citoyens autorisés à dire si Assad doit continuer ou non. Laissons passer les élections au Parlement, puis les élections présidentielles, et ensuite nous déciderons qui doit gouverner et mener le pays. J'espère que Genève commencera bientôt le dialogue intersyrien. Nous devons croire au dialogue. En tant que personne en charge d'une fonction importante dans le pays, je ne peux pas me permettre d'être pessimiste quant aux chances du dialogue. قل للولي حتف الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, 5 ans de guerre en Syrie. C'était un reportage signé Valérie Crova, réalisé par Annie Bro. Et nous sommes toujours avec notre invité, le chercheur Fabrice Ballanche, qui travaille en ce moment au Washington Institute aux États-Unis. On va revenir d'abord au tout début du reportage de Valérie Crova sur l'origine finalement de cette guerre qui a maintenant 5 ans. Tout à l'heure, on a entendu le témoignage d'un homme à Dera. Valérie lui demande si tout a bien commencé là. Il parle de ses enfants qui avaient tagué ces slogans sur les murs. Est-ce que vous avez la même lecture de l'origine du soulèvement populaire syrien? Est-ce que ce sont effectivement des enfants qui ensuite ont été, comme on pourrait dire nous, massacrés par le régime de Bachar al-Assad? Fabrice Ballanche.
Oui, ce qui s'est passé à Dera, c'était sans doute une des étincelles qui a mis le feu aux poudres. On avait quand même une situation qui était extrêmement tendue dans tout le pays. Sans doute que d'autres personnes se sont fait arrêter, tabasser, torturer dans d'autres provinces, mais on n'en a pas eu connaissance. Ce qui s'est passé, c'est qu'à Dera, ça a été particulièrement mal géré, parce que ces enfants, effectivement, ont été torturés. Et lorsque les chefs de tribu sont venus humblement demander aux chefs des mukhabarat locaux, donc de la police locale, de les libérer, tout ce qu'il a trouvé à leur dire, c'est « écoutez, oubliez-les, faites-en d'autres, et si vous n'avez pas comment les faire, amenez-nous vos femmes, on va s'en occuper. » Alors là, c'était vraiment suprême humiliation pour la population de Dera, et c'est ça qui a réellement mis le feu aux poudres, c'est l'insulte qui a été faite à la population. Mais Dera, bon, c'est une province où il y avait d'énormes problèmes socio-économiques, une province rurale, essentiellement rurale, agricole, une sécheresse de 5 ans, des puits qui s'assèchent. Ceux qui veulent pouvoir continuer à creuser leurs puits, eh bien, il faut qu'ils payent les mukhabarat, qui corrompent donc l'administration. Ceux qui ont eu des diplômes ne trouvent pas de travail parce que l'État a arrêté de créer des postes de fonctionnaires, de développer les services dans cette province. Et donc, on avait une situation qui était explosive à Dera. Mais dans d'autres régions, c'était aussi très explosif. On oublie de parler de Banias, par exemple, où, en même temps que Dera, on a eu des affrontements à Banias, le village d'Al-Baïda, un village sunnite dans l'arrière-pays alaouite, où il y a eu une répression extrêmement forte. On en parlait très peu, parce qu'elle a vite été circonscrite, cette répression, parce qu'en plein pays alaouite, les mukhabarat, l'armée sont vite venus à bout des rebelles. Puis surtout, on ne voulait pas trop la voir, parce que là, il y avait un caractère clairement communautaire, qui gênait finalement la lecture qu'on avait de la crise syrienne au début, en 2011.
Communautaire, vous voulez dire vraiment alaouite contre sunnite?
Oui, dans la région de Banya, c'était alaouite contre sunnite. À Homs, c'était alaouite contre sunnite, avec les chrétiens au milieu qui ont été chassés du centre-ville par les rebelles sunnites. Bon, on avait toutes ces oppositions qui remontaient à la surface. Dans le nord de la Syrie, c'était kurde contre arabe. Enfin, tous ces clivages communautaires, ethniques et même tribaux qui aujourd'hui ne sont plus un secret, ça a commencé dès le départ. Mais à Dera, comme la population est, je dirais, 98% arabe sunnite, justement, on n'avait pas ce clivage communautaire et on focalisait énormément dessus. Mais quand on regarde bien, finalement, la révolte de Dera, elle s'est arrêtée à la limite du Djebel Druze. C'est-à-dire que les populations druzes, à l'est de Dera, elles ne sont pas du tout rentrées dans la révolte, elles, par contre. Et ça, on oublie évidemment de le souligner.
Une question de Valérie Crovin.
Oui, vous avez souligné l'aspect socio-économique. Il y a des racines sociales à ce mouvement. C'est pas pour rien que ce sont les quartiers dans les banlieues des grandes villes qui se sont soulevés en premier.
Oui, alors c'est une révolte des périphéries. Des périphéries rurales comme Deraa, comme Derzor, et des périphéries des grandes villes, de toutes ces ceintures de misère qui se sont développées depuis 20 ans en Syrie, liées à une croissance démographique galopante. Il ne faut pas oublier que la population syrienne double tous les 20 ans depuis 1945 et que le mouvement s'était à peine ralenti à la fin des années 2010. Donc on a une croissance démographique qui rend impossible tout développement soutenable et équilibré dans ce pays. Et puis vous avez ensuite les effets de la libéralisation économique en Syrie. Tous les filets de sécurité sociaux qui avaient été mis en place durant la période bassiste, on va dire jusque dans les années 80, et qui ont eu encore une certaine force d'inertie dans les années 90, là, dans les années 2000, c'était terminé.
Quand Bachar accède au pouvoir?
Bachar accède au pouvoir, il essaie d'enclencher des réformes parce que le système précédent était à bout de souffle, mais évidemment il n'y parvient pas parce qu'on a une bureaucratie qui bloque toute évolution. Et puis vous avez cette croissance démographique qui est trop forte, qui emporte, je dirais, le bénéfice des réformes. Et on a toutes ces banlieues informelles qui vont se développer autour de Damas. Enfin, Damas, c'était un tiers de la population qui vivait dans l'informel, Alep, la moitié de la population, Raqqa, les trois quarts. Ça, on oublie de souligner. Des banlieues de Damas où vous avez 2 heures d'eau par semaine. Et on n'est pas en guerre, là, on est en temps de paix. Il y a 2 heures d'eau par semaine. Comment voulez-vous que ça ne soit pas explosif? C'est à cause des coupures d'eau qu'on a eu la guerre civile en Algérie. Enfin, une des raisons de la guerre civile en Algérie, ça a été, en les années 90, c'était ça, c'était l'arrêt de l'eau dans les quartiers périphériques d'Alger.
Mais Fabrice Ballanche, quand vous parlez de communautarisme, enfin, au début en tout cas d'un affrontement entre communautés alaouites et sunnites, est-ce qu'il faut y voir une dimension religieuse ou bien, disons, les proches du pouvoir de Assad qui sont jalousés par les autres?
Alors effectivement, au départ, il faut y voir quelque chose de communautaire. Qu'est-ce qu'une communauté? C'est un groupe de solidarité. Hafez al-Assad, Bachar al-Assad s'appuient sur les alaouites qui peuplent l'armée, les services de renseignement, qui ont donc un accès privilégié à la fonction publique. Et par conséquent, un jeune alaouite sortant de l'université va très facilement trouver du travail, alors qu'un jeune sunnite avec le même diplôme n'en aura pas parce qu'il n'a pas les réseaux de clientélisme qui lui permettent d'avoir des travaux dans la fonction publique. Et évidemment, ça crée des jalousies. C'est aussi dans la vallée du Rab, à l'ouest de Homs et de Hama, les paysans alaouites qui peuvent creuser des puits, qui ont accès à l'eau, alors que les paysans sunnites, eux, n'ont pas le même accès à l'eau. Donc tout ça, ça crée évidemment des tensions qui vont se manifester très violemment. C'est dans la périphérie du Djebel alaouite, à côté de Homs, qu'on va avoir les premiers massacres de civils, comme le massacre de Houley, par exemple. Vous avez une centaine de villageois sunnites qui sont assassinés. Mazra Adkouber, c'est par contre une centaine de villageois alaouites qui sont assassinés.
C'est pas lié à la religion ou à ce qu'on dirait d'un côté des gens plus proches du chiisme et puis de l'autre des sunnites.
Voilà, alors c'est pas une querelle métaphysique, c'est vraiment une querelle d'accès aux ressources, mais évidemment, ça va déboucher rapidement sur une querelle religieuse. C'est-à-dire que, jusque je dirais en 2013, c'était du communautarisme, et après, on rentre dans une guerre de religion. Parce qu'on a l'arrivée des djihadistes, qui là, désignent clairement les alaouites, les nosaïri, comme des hérétiques qu'il faut éliminer.
Une question de Valérie Crova.
Donc, jusqu'en 2013, vous estimez que ce n'est pas une vraie révolte, que c'est une révolte, mais à caractère, on va dire, plutôt social, économique. Et ensuite, cette révolte se transforme avec une radicalisation des combattants qui viennent d'autres pays. Et pourtant, pour les habitants que j'ai pu rencontrer, notamment à Homs, ils parlent toujours des terroristes. Il n'y a jamais de rebelles. Par exemple, pour eux, les combattants de l'armée syrienne libre ne sont que des terroristes. Pour eux, ils ne font pas la différence.
Oui, alors bon, parce que vous avez interrogé les gens, évidemment, du côté gouvernemental. Donc ça, c'est le terme générique qu'on va utiliser pour qualifier tous les rebelles. Donc ils vont qualifier de terroristes. Parmi ces rebelles, vous avez des gens qui se sont soulevés, des locaux, des déserteurs de l'armée syrienne. Et puis vous avez aussi des éléments étrangers qui sont arrivés très rapidement en Syrie. À Homs, je me souviens de reportages où on voyait dès 2000. début 2012, des barbus avec des bandanas avec la sur le front, qui venaient clairement de l'extérieur, parce qu'à partir de Tripoli du Liban, l'Arabie Saoudite, le Qatar ont amené armes, munitions et puis djihadistes venus de l'ensemble du monde musulman pour se combattre avec les rebelles et qui ont progressivement pris le dessus sur la rébellion pour ensuite devenir très rapidement dominant. Et là, on le voit bien en 2013 où ce sont l'État islamique, Al-Nusra et autres groupes djihadistes qui dominent clairement la rébellion.
Parce que tous les gens que j'ai rencontrés, alors encore une fois, ce sont des gens qui étaient côté régime, me posaient à chaque fois la question de savoir, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'au tout début, c'était un mouvement démocratique? Pour eux, ça n'est pas un mouvement démocratique. Hein. Ils vous renvoient cette question comme étant une évidence pour eux. Non, ce n'était pas un mouvement démocratique.
À part quelques intellectuels, pour moi, ce n'était pas un mouvement démocratique non plus. Parce que ce sont des adhérents, des causes... Alors, il y a l'oppression, effectivement, il y a les problèmes socio-économiques qui poussent les gens à bout, mais il n'y a pas de revendication démocratique. Il y a une demande de changement de régime, une demande de réforme, mais nulle part apparaît la revendication démocratique. De toute façon, la population syrienne, très peu... connaissent la démocratie. La démocratie n'a quasiment jamais existé en Syrie. Alors on parle de l'épisode des années 50, bon, c'était plutôt une plutocratie qu'une véritable démocratie à l'époque. Donc c'est difficile pour les Syriens de savoir vraiment qu'est-ce que c'est que la démocratie. Alors ils en parlent, c'est un slogan, mais finalement pour la définir, ils en sont bien incapables.
Vous parliez tout à l'heure des éléments extérieurs et Valérie aussi qui sont venus alimenter les djihadistes, le djihadisme disons en ce moment en Syrie et qui ont pris le dessus. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'armée syrienne libre?
L'armée syrienne libre, à la base, l'armée syrienne libre n'a jamais existé. En tant qu'armée, en tant que groupe hiérarchisé avec un état-major et une chaîne de commandement, ça n'a jamais existé. Il y a eu des officiers qui se sont réfugiés en Turquie, qui ont été rassemblés par la CIA, par les Turcs, par les Occidentaux, qui ont créé un état-major. Différents chefs se sont succédés. Le dernier en date, c'était Selim Idris, qui a complètement disparu de la circulation aujourd'hui. Et dès que vous aviez des faits d'armes sur le terrain, eh bien l'état-major se les appropriait. Mais il n'y avait absolument aucune chaîne de commandement, il y avait un organigramme, mais ce n'était valable que sur le papier. Alors on a fini par qualifier d'armée syrienne libre, Jaych al-Hur en arabe, les groupes qui n'étaient pas djihadistes finalement. Mais ils ne sont liés par aucun lien. Ce sont des groupes complètement épars. Et l'armée syrienne libre continue à vivre dans la fiction des discours occidentaux pour ne pas reconnaître que l'essentiel des rebelles, ce sont en fait des islamistes ou des djihadistes.
Mais l'essentiel, ça veut dire quoi? 60%, 70%, 90%?
Oui, 90%, on peut le dire. Il y avait une étude faite par le représentant de l'ONU à Damas en mars 2013, qui avait été reprise par le Figaro, par Georges Malbruno. Et à l'époque, il qualifiait de combattants de l'armée syrienne libre après seulement 15% des rebelles. On était en mars 2013, donc imaginez aujourd'hui où nous en sommes. Mais ça continue à vivre, cette fiction d'armée syrienne libre, parce que lorsque les journalistes qui ne sont pas arabophones vont interroger des Syriens, on leur demande, et moi-même ça m'est arrivé, qui contrôlait votre région? J'entendais des réfugiés qui me disaient c'était Jaych al-Hur, l'armée libre. C'était l'armée libre. Bon. Là c'était Daesh, c'était l'État islamique. Je dis, mais dans votre région, il me semble plutôt que c'est Al-Nusra qui était... Oui, c'était l'armée libre. Parce que pour les réfugiés syriens, tout ce qui n'est pas l'État islamique, c'est l'armée libre. Et donc, si vous ne poussez pas la conversation un petit peu loin pour savoir réellement si c'était des gens de l'armée libre tels que nous l'entendons, c'est-à-dire laïque, séculière, etc., eh bien, en fait, on croit que c'est l'armée libre, mais en fait, non, ce n'est pas du tout l'armée libre telle que nous l'entendons en Occident. Ce sont des groupes qui ne sont pas affiliés à l'État islamique, tout simplement.
Valérie s'est donc rendue à Homs, on vient d'en parler un petit peu. En quoi cette ville était vraiment stratégique et pourquoi le régime a absolument voulu la reprendre après l'avoir pilonnée, bombardée pendant 2 ans?
Alors, Homs, c'est la troisième ville de Syrie en termes de population. En 2011, il y avait à peu près 700 000 habitants. C'est une ville dont la population était à 65% sunnite, 25% alaouite et 10% chrétien. C'est une ville capitale pour sa position géographique. Elle est vraiment au centre de la Syrie, à l'intersection des principales voies de communication, l'autoroute Alep-Damas, la route Palmyre-Tartous, la route qui va vers la côte. Donc c'est vraiment stratégique, hein, Homs tient vraiment toute la Syrie. Donc le régime a repris cette ville pour contrôler cet axe de communication. Il a repris cette ville aussi parce que c'est la porte de la région alaouite, donc le fief du régime, et une des conditions pour que Bachar el-Assad puisse disposer de troupes capables de se battre un peu partout en Syrie, ce sont des troupes essentiellement alaouites, c'est que la côte alaouite soit protégée, parce que les soldats alaouites ne vont pas aller se battre à Derzor, à Damas, si leurs villages sont sans défense. Donc pour ça, il fallait vraiment éliminer ce foyer de rébellion à Homs. Et ça, les puissances extérieures l'avaient bien compris, puisque dès le début de la crise, à partir de Tripoli, ils ont envoyé armes, munitions, soldats, djihadistes à Homs pour couper la Syrie en deux. Tripoli au Liban, oui, bien sûr.
La fin là, du magazine, on a entendu cette interview presque surréaliste que Valérie fait avec le ministre qui est responsable, entre autres, comme il l'explique, de la reconstruction. Et il parle de la Syrie comme si la guerre était terminée. Enfin, pas tout à fait, mais il explique à quel point son pays va aller de mieux en mieux. C'est assez troublant pour nous.
Bon... Côté gouvernement syrien, depuis même 2011, ça va bientôt se terminer, on va gagner, donc c'est normal qu'ils reprennent ce discours. Bon, après, il faut reconnaître que depuis septembre 2015, avec l'arrivée des Russes, qu'il y a quand même une dynamique de victoire du côté de Bachar el-Assad, et que beaucoup de gens aujourd'hui commencent à penser à l'après-guerre et donc à tous les contrats de reconstruction dont ils vont pouvoir être partenaires.
Valérie.
Oui, je peux vous le confirmer pour avoir rencontré pas mal d'officiers de l'armée syrienne en étant sur place, ils sont particulièrement détendus hein, et ils ont plutôt le sourire, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement confiants en la victoire. Ils pensent que cette victoire arrivera. Alors, ils n'ont pas tout à fait la même notion du temps que nous. Hein. Ça arrivera quand ça arrivera, mais on est sûr que tôt ou tard, on gagnera. Pour ce qui est de la reconstruction, il se dit que les Chinois sont en très bonne place, qu'ils auraient déjà proposé un plan pour reconstruire la Syrie en 5 ans. C'est ce qui se dit, en tout cas c'est des rumeurs. Et il y aura d'ailleurs un colloque organisé au mois de septembre à Damas sur la reconstruction.
Fabrice Ballanche, est-ce que vous imaginez, vous, une partition de la Syrie ou une victoire de Assad qui l'oblige à n'avoir finalement de pouvoir que sur une partie du territoire ?
Il est clair que même si Bachar el-Assad l'emporte, il ne pourra pas reproduire le système centralisé qu'il y avait avant la guerre civile. Tout d'abord, il sera obligé de laisser une large autonomie aux Kurdes, parce que les Russes lui ont demandé, parce que c'est la condition de la victoire. Il faut absolument que les Kurdes ferment la frontière turque afin d'asphyxier la rébellion à l'intérieur. Et par conséquent, il faut qu'ils contrôlent les territoires au nord du pays. Et c'est ce que les Kurdes sont en train de faire. Ensuite, pour se débarrasser de l'État islamique, à Raqqa, Deir ez-Zor, il va falloir s'appuyer sur les tribus locales. Une tribu, elle n'est pas à vendre, elle est juste à louer. Elle va se ranger du côté du plus fort. Et donc, vu que le régime syrien est donc en position de force, dans une dynamique de victoire, on va voir revenir vers lui, évidemment, les tribus de cette région, qui peuvent l'aider à se débarrasser de l'État islamique. Mais pour ça, évidemment, il faudra partager le pouvoir avec eux. Donc leur donner une certaine marge de manœuvre. Comment cela va s'inscrire dans une nouvelle constitution? Est-ce qu'on va vraiment avoir une nouvelle constitution avec un caractère fédéral pour le pays, ou est-ce que ça va rester officieux? Bon, ça sera à débattre. Mais je vois plus Assad régner de manière directe sur l'ouest du pays, et puis de manière indirecte sur le nord et sur l'est.
Mais dans ce scénario-là, que devient justement l'État islamique? Il est éradiqué? Les djihadistes disparaissent?
Disparaissent, je crois pas, parce que beaucoup de gens dans la région ont intérêt au maintien d'un mini-État islamique afin de justifier leur existence, de justifier un soutien extérieur. Je pense que les Russes et Assad ont intérêt à prendre Raqqa avant la fin de l'année, voire début 2017. Les Russes pour justifier au final leur intervention en Syrie et puis Assad pour avoir la légitimité pour se représenter aux élections. Mais laisser quand même... déjà, il faut avoir les moyens de l'expulser totalement de Syrie parce que tant qu'en Irak, il reste puissant, ça ne sera pas évident pour reprendre l'intégralité de l'Est du pays. Et puis, ça peut aussi avoir une justification d'un point de vue géopolitique, c'est-à-dire que maintenant, la cible pour beaucoup de gens, et surtout pour les États-Unis, c'est l'État islamique, et plus personne, finalement, ne veut côté occidental, plus beaucoup de pays veulent la tête d'Assad.
Enfin, disons qu'ils s'habituent à sa présence, ou à sa longévité, ou à sa survie. C'est plus dans leur priorité, c'est ça?
C'est plus dans leur priorité. Et puis, étant à Washington, je vois un peu comment ça se passe. Et aujourd'hui, en off, il est clair que la CIA, le département d'État, ils ne veulent pas le départ d'Assad, parce qu'ils ont très peur que la situation soit pire si le régime s'écroulait, que le Liban, la Jordanie soient contaminés, que la Syrie devienne un État failli complet, à l'image de la Somalie. Et ils sont plus aujourd'hui pour calmer le jeu dans la région que pour jeter de l'huile sur le feu. Ben évidemment, ils ne veulent pas céder trop vite aux Russes et aux Iraniens. Le souci, c'est que c'est les Turcs et les Saoudiens qui ne veulent rien entendre.
Valérie Crova.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a sous-estimé Bachar el-Assad?
Ah, totalement. On a totalement sous-estimé Bachar el-Assad, le système, le caractère communautaire du conflit, le soutien iranien et russe à la Syrie. J'avais une réunion l'année dernière, quelqu'un du Quai d'Orsay, en février, je me souviens, et il me disait « Oui, on va continuer à alimenter un conflit de basse intensité en Syrie, comme ça, quand l'armée syrienne sera faible, eh bien Assad sera obligé de négocier. » J'y avais tout simplement dit « Mais vous savez, si l'armée syrienne devient faible et incapable de résister aux rebelles, qu'est-ce qui vous dit que les Russes et les Iraniens ne vont pas intervenir directement en Syrie ?» Il m'a dit « C'est tout à fait impossible. » Bon. Voilà, alors...
Qu'est-ce qui, pour vous, a déclenché l'arrivée des Russes là en septembre? C'est vraiment la faiblesse de l'armée syrienne ou il y a d'autres explications?
Oui, c'est la faiblesse de l'armée syrienne. Les Russes sont intervenus parce que sinon, ils risquaient évidemment de s'effondrer. Le régime de ne contrôler plus que Damas grâce au Hezbollah, l'Iran et puis la côte. C'est parce qu'il est en position de faiblesse qu'il a accepté les conditions des Russes. Et notamment ces conditions, enfin, on en a eu un petit aperçu, elles sont assez draconiennes. Les Russes ne peuvent être accusés d'aucun crime en Syrie, quoi qu'ils fassent. Et puis, la partie secrète de l'accord, c'est justement l'autonomie aux Kurdes. Poutine ayant expliqué à Assad que sans l'alliance avec les Kurdes, il ne pourrait pas arriver à venir à bout de la rébellion syrienne parce qu'elle restait soutenue par la Turquie.
Mais Poutine a quel intérêt à soutenir les Kurdes? Enfin, je veux dire, mis à part l'intérêt stratégique de barrer la route des djihadistes.
Poutine veut affaiblir la Turquie. Son grand plan pour le Moyen-Orient, il est en Syrie, c'est pas pour 3 mois, 6 mois, c'est vraiment pour y rester. La base de Tartous, la base de Latakié, ça c'est vraiment le pied-à-terre des Russes au Moyen-Orient et en Méditerranée. C'est encercler complètement la Turquie et la priver de sa capacité à devenir un carrefour énergétique qui pourrait concurrencer les oléoducs et les gazoducs venant d'Asie centrale, de Russie, vers l'Europe. Là, le gazoduc qatari qui devait se brancher sur la Turquie, le projet Nabucco, tout ça, c'est oublié. Donc c'est ça l'intérêt de Poutine. Et les Kurdes sont fondamentaux dans cette équation parce que les Russes sont persuadés que ce qui va faire bouger les frontières du Moyen-Orient au XXIe siècle, c'est le fait national kurde. En Turquie, en Syrie, en Irak, partout.
Voire en Iran. Merci beaucoup Fabrice Ballanche d'avoir participé à cette émission. 5 années de guerre en Syrie, c'était un reportage signé Valérie Crova, réalisé par Annie Bro. Merci à toutes les deux. À la technique ce soir, Pierrick Monsigny, Julien Calvas. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours, la podcaster aussi, la commenter sur notre site franceculture.fr grâce à Camille Renard.